Tant qu'il y aura des femmes, avec Lydia Ketty. Votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à l'émission Tant qu'il y a des femmes sur Aligre FM 93.1. Je vous retrouve chaque premier et troisième jeudi de chaque mois. Ce soir, avec un énorme plaisir, nous recevons Madame Khadija. Déjà, tu vois, elle m'a dit, Madame, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me présenter les femmes extraordinaires qui sont tout autour de nous. Vous les connaissez mieux que moi, donc.
Alors oui. Alors tout autour de moi, à ma droite, j'ai Lucille Arnaud.
Bonsoir.
Magnifique, sublime comédienne qui joue dans 200 et de Lumière de Laurent Godet. À ma gauche, j'ai Nathalie Vidaillac qui joue dans Médicali, tout aussi sublime et tout aussi gigantesque comédienne. Juste à côté, on a Émilie Andru.
Bonsoir.
Qui joue dans Cendres sur les mains, pièce qu'on joue actuellement à la Croisée des Chemins, et qui fait partie d'un trio magnifique qui porte le cœur de la rescapée. Et juste à côté d'elle se trouve Marie-Laurette Jenny.
Bonjour.
Qui est musicienne et qui va présenter aussi son univers.
Et qui participe à la pièce.
Et qui joue avec nous.
Conteuse de son. Donc j'ai vu ça, très beau ça aussi.
Ah oui, conteuse de son dans Médicali et dans 200 et de Lumière. Non, pas dans 200 et de Lumière, elle joue partout. Dans 200, dans Médicali et Cendres sur les mains. Oui, il y a plusieurs spectacles.
Vous êtes comédienne, vous êtes metteuse en scène, enseignante, spécialisée dans le jeu masqué. Ça, on en parlera. Et formatrice au cours Florent. Ça fait beaucoup d'activités.
Oui, mais elles se réunissent toutes autour du même désir, oui. C'est de dédoubler le monde et d'offrir un territoire de rêve possible pour traverser les temps un peu troubles que nous traversons.
Compliqué. Mais vous y arrivez divinement, je dois dire, je suis témoin. Ce soir, vous nous présentez la pièce « Cendres sur les mains » de Laurent Godet, qui est programmée donc, au théâtre de la Croisée des Chemins. À partir depuis septembre, en fait, depuis le 12 septembre.
Depuis le 12 septembre, on en est à la 13e représentation, parce qu'on a fait une première représentation à Alba la Romaine, qui était une représentation en rue. C'était la première fois que l'équipe jouait masquée et jouait en rue. Et là, on est à la 12e représentation, effectivement, à la Croisée des Chemins. Et ce soir, ce sera la 14e.
Et l'auteur vient ce soir, d'après ce que j'ai entendu.
L'auteur vient demain.
À demain soir, oui. Jusqu'au 1er novembre. Jusqu'au 1er novembre, vous êtes
au théâtre. On joue
jusqu'au
1er novembre, oui.
Mais ce n'est pas la première pièce de Laurent Godet que vous mettez en scène, parce que je crois que vous êtes une amoureuse de cet auteur.
Alors, c'est délicat de dire amoureuse aujourd'hui de oui, l'auteur. Un spectre comme
non,
ça
non,
de
non,
projection. Alors, disons que je suis amoureuse de ses terres.
Oui.
Et amoureuse de son accueil sur ses terres. Au moment où j'avais mis en scène, c'était une commise en scène autour de Salina, les trois exils, il avait dédicacé son ouvrage en disant « Bienvenue sur mes terres ». Et je trouve ça beau qu'un artiste ouvre les terres de son imaginaire.
Il vous invite, oui.
Ouais. Et je me suis sentie invitée sur un territoire où voilà, il y avait une possibilité de tisser et de créer ensemble.
Laurent Godet est un écrivain, romancier, dramaturge. Vous avez parlé de son style, donc je ne vais pas poser la question, mais il est quand même, c'est un quand même incroyable. Il a, de 1999 à 2023, il a publié 18 pièces de théâtre. Et de 2001 à 2024, 13 romans. Donc, et il y a encore d'autres choses, il fait encore d'autres choses, c'est incroyable.
Oui, oui, il travaille.
Il travaille.
C'est un artisan. C'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Il y a une forme
d'artisanat, quelque
de simplicité, oui. D'humilité, d'une œuvre à l'autre. On retrouve sa patte, son écriture, son empreinte artistique. Quand on lit un texte, on sait bien qu'il s'agit de lui. On entend sa voix, on entend ce grand souffle qui traverse les œuvres, ce cri de l'humanité qui demande à être pris en compte. Et moi, je suis bouleversée par ce travail quotidien, ce labeur, qui, me semble-t-il, vient de loin, vient aussi de ses terres intimes, puisque son père était psychanalyste et sa mère, elle pratiquait le psychodrame. Et ces territoires sont des territoires d'accueil pour des paroles qui ne sont pas entendues. J'ai la sensation que lui, à travers l'art, il a dédoublé aussi l'action que ses parents accomplissaient auparavant.
Il a gagné des prix, donc le prix Goncourt des lycéens. Et puis, en 2004 aussi, il y a eu un prix Goncourt aussi.
Oui.
Mais quel est le sujet de la pièce « Cendre sur les mains » ? Parce que c'est assez énigmatique, « Cendre sur les mains ».
Oui. Alors, ce que j'aime déjà dans le titre, c'est la matière et c'est l'organicité. Et on retrouve ça dans le travail qu'on accomplit. La matière est importante. Rentrer dans la matière, il y a dans ces œuvres un travail qui est celui de l'alchimie. On métamorphose le charbon en diamant et le plomb en or. Et c'est un travail qui est un travail intime, qui est un travail de l'être. La pièce « Cendre sur les mains » raconte l'histoire de deux hommes, de Farfadet, de Lutin, de deux êtres perdus dans l'immensité d'un no man's land où s'accumulent des corps qui viennent de charniers. Alors, on ne sait pas, c'est pas nommé, il n'y a pas d'espace défini, c'est le grand charnier de l'histoire. C'est tous ces morts incompréhensibles qui se sont accumulés et eux se retrouvent cernés de tous ces corps, tentant désespérément de les brûler, ni n'y arrivons pas. Et à un moment, dans l'inconscience qui est la leur, puisqu'ils mangent, ils chantent, ils rient, ils devisent, ils boivent, va apparaître devant eux une femme qui va s'élever du charnier et les regarder. Et elle va devenir, d'une certaine manière, la figure emblématique, la chef de cœur de tous les morts qui vont venir les regarder, s'adresser à eux, les questionnant sur les actes qu'ils accomplissent, le sens des actes qu'ils accomplissent.
Laurent Godet, en fait, il y a deux fossoyeurs et une rescapée, mais vous avez, dans votre mise en scène, doublé les personnages. Et j'ai trouvé ça magnifique, je dois dire.
Oui. Mais... vous disiez, est-ce que vous êtes amoureuse de Laurent Godet ? Je suis amoureuse des acteurs, je suis amoureuse des actrices, je suis amoureuse de la danse.
Vous êtes une femme amoureuse, en tout cas.
J'aime aimer. Je trouve qu'on devrait tous aimer, pratiquer le fait d'aimer sans cesse. Et il se trouve que j'ai des anciens élèves du cours Florent qui m'ont sollicité pour continuer à travailler autour du masque après leur formation. On s'est réunis, on a fait quelques séances de travail technique. Et puis à un moment, je leur ai dit, écoutez, j'ai une proposition. Il y a un festival Alba la Romaine. Est-ce que vous voulez partir ? Oui. Et le groupe, c'est, comment dire...
C'est créé, c'est formé.
Oui, il y a des personnes qui sont parties. Il y en a qui sont restées. Et il y avait ce quatuor et le trio qui était là. Et je me suis dit, allez... Partons ensemble pour raconter cette histoire. Et très rapidement, il y a deux duos de fossoyeurs qui sont apparus. Le trio aussi est devenu ce fameux cœur qui porte la parole. On a travaillé avec des masques, c'est des demi-masques. Donc du coup, on a commencé à travailler en miroir les uns avec les autres. Et j'ai trouvé ça magnifique de ne pas encapsuler à travers uniquement un duo cette histoire, mais de l'ouvrir à toute l'humanité. Et simplement le fait de les dédoubler ou de passer comme ça cette triade de femmes, eh ben ça a ouvert l'espace. Ça décapsule complètement le fait d'enfermer l'histoire et le public se projette.
Les quatre garçons sont extraordinaires. Est-ce qu'on peut donner leur nom parce qu'ils sont pas avec nous?
Ah mais oui. Alors on a Lorcane Carole, Clément Leroux, Thomas Oseret et Michael Steinberg.
Et nous avons donc Émilie Andru qui est avec nous.
Tout à fait.
Qui est une des rescapées.
Une des rescapées. Et Léa Lévy
qui est la deuxième rescapée. Il y en a une troisième.
Il y en a une troisième.
Oui, qui s'appelle Léna Tucker, mais qui apparaît à la toute fin.
Oui, c'est vrai. Elle est avec vous. Là, elle est plus dans la musique. On la voit au début, elle est assise... Émilie est une ancienne élève, en fait. Elle était au cours Florent, d'après ce que j'ai compris.
La première promotion.
Oui. Oui, en fait, on s'est rencontrés... j'étais déjà à Florent depuis un an. Et j'avais déjà découvert le masque avec un ancien prof. Et alors, c'était déjà une entrée en matière qui était assez forte. Et en fait, ma rencontre avec Khadija s'est faite parce qu'elle a remplacé ce prof-là à ce moment-là. Et je pense que la rencontre s'est vraiment effectuée à ce moment-là par la rencontre déjà avec Khadija, puis sa manière de travailler le masque. Et moi, ça m'a vraiment révélé, et c'est à ce moment-là que ouais, le travail du masque m'a vraiment fascinée, en fait.
Mais parlez-nous de cette rescapée, alors, de, que vous êtes. Qui, c'est qui, cette femme rescapée?
Qui est cette femme? on ne peut pas la nommer, mais je dirais que tout à l'heure, quand vous disiez, beaucoup de femmes ne sont pas debout. Et bien, je pense que c'est justement cette figure qui se lève.
Elle s'est relevée.
Et qui offre aux morts la possibilité d'être reconnus, ou du moins elle leur offre la possibilité qu'on s'en souvienne et qu'elle partage ce souvenir-là plus tard, en fait, je dirais ça.
Mais elle est quand même inconsciente, elle est quand même souffreteuse, elle est quand même...
Bien sûr, au début quand même elle se lève d'un charnier, elle tombe sur l'ennemi, c'est une rencontre qui est... stupéfiante, on peut dire, mais disons que au vu que les garçons ne lui veulent pas de mal, elle va commencer à faire sa place en fait avec le charnier. Et voilà.
Mais en fait, les fossoyeurs sont un peu dans une espèce de routine de vie. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a ri dans cette pièce. Les gens rient, on a pu rire, et c'était assez étonnant parce que ça détend un petit peu dans ce monde un petit peu compliqué, difficile à regarder vivre. Mais ces fossoyeurs sont assez étonnants parce qu'ils sont assez sympathiques en réalité, même s'ils ont un travail insupportable. Mais...
Ils ont un travail insupportable, mais comme parfois toutes les personnes ont un travail insupportable. Je me suis dit que la question qui se pose avec ces fossoyeurs, c'est la question du travail qu'on accomplit. Qu'est-ce qu'on fait chaque jour? À quoi on délègue nos corps, nos yeux, nos âmes? Qu'est-ce qu'on laisse comme trace ici dans ce monde? Et eux sont totalement inconscients de ce qu'ils sont en train d'accomplir.
Ils sont impliqués quand même.
Ah, par contre, oui. Ils ont ce souci de faire leur travail du mieux possible.
Ils sont des fonctionnaires.
Oui, et ils font des propositions. Ils font des propositions, ils sont force de proposition.
Pour habiller cette pièce, donc le Cendre sur les mains, vous avez choisi le chant et la musique de Marie-Laurette Génie, qui est à côté de nous aussi, qui donne une dimension émotionnelle apaisante et avec une grande finesse. Madame, vous êtes une artiste?
Oui.
Vous êtes une artiste plasticienne au départ, performeuse, et conteuse de sons. J'ai adoré ce mot. Une aventurière de la matière, parce que votre père a inventé un instrument, si j'ai bien compris.
Oui.
Et comme vous inventez vos instruments aussi.
C'est ça. Lui, il était plus dans l'électronique.
Oui.
Et moi, je suis avec des matériaux de la nature, en acoustique. Mais les sons de l'instrument de mon père, mais je ne vais pas en parler là, parce que ça pourrait ouvrir un chapitre, mais oui. On trouve plein d'informations sur mon site.
Sur votre site, bien sûr, sur Internet.
Voilà. Et c'est...
Mais vous avez donc un instrument qui est fait avec du bois flotté, c'est ça? Vous travaillez avec du bois flotté?
C'est un instrument que j'ai fait, que j'ai réalisé en hommage à ma maman, qui avait quitté ce monde. Et c'est... un lien entre le monde visible et invisible. Et il y avait un magnifique arc-en-ciel quand j'ai trouvé cette branche, et elle racontait que c'était le chemin qu'empruntaient les défunts. Et voilà, donc toute l'histoire tourne autour de cette idée du visible, de l'invisible, et le son.
On y est, c'est extraordinaire, parce que le lien est là, en fait. Hein. Parlons de Lucille, alors. Lucille, qui est là, à côté de nous. Qui est aussi dans une pièce, donc de sang et de lumière.
Oui.
Toujours du même auteur.
Toujours du même auteur, tout à fait.
Également à la croisée des chemins, et on partage la scène avec Veda Talak, qui est comédien et musicien kurde, et qui est fantastique.
Et que dit Laurent Godet dans cette pièce? Parce que bon, ça aussi, de sang et de lumière... Qu'est-ce qu'il devait nous dire?
Du coup, ce texte, au départ, c'est un recueil de poèmes. Ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est différents poèmes qu'il a écrits entre, je pense, 2012 et 2016. Et il parle de plein de sujets différents. Il parle... bon, il y a certains textes qu'on a gardés et d'autres qu'on a écartés pour ce spectacle de sang et de lumière. Mais dans tous les textes, ben, il parle... de la jungle de Calais, il parle des Kurdes, de la situation des Kurdes, il parle de sa situation familiale aussi et les liens qu'il fait avec les personnes qui sont migrantes en ce moment dans le monde. Et il fait des ponts, des liens avec ce qui s'est passé dans le passé pour sa famille. Il y a plein de choses. Il parle de l'esclavage aussi.
Il parle de l'esclavage aussi. Mais il a rencontré ces réfugiés syriens, kurdes et irakiens. En fait, il les a rencontrés, en fait.
Oui, il est allé dans le Kurdistan irakien. Et il est aussi allé dans la jungle de Calais. Et donc, il est... Et Radija a beaucoup souligné ça dans notre travail. C'est comme un porteur de parole, un témoin, un passeur de ce qu'il a vu. Il transmet ce qu'il voit.
Et parce qu'il parle en fait des gens qui se battent pour leur dignité, et il est un peu témoin et porte-parole, on va dire. Encore, moi j'adore ce monsieur, vraiment. Je vais venir vendredi le voir, parce que juste le regarder, parce que ça doit être un être extraordinaire à voir.
Ça y est, vous êtes amoureux.
Ça y est, moi aussi.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, Médé Kali,
oui.
Qui est avec nous.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Médé Kali.
Ah. Qui êtes-vous, c'est deux femmes. Oui, qui êtes-vous? Oui, voilà. Vous êtes deux femmes en plus. Hein.
Oui, oui. Même trois. Même trois, parce qu'il y a la Gorgone qui apparaît aussi.
Oui, aussi, oui.
C'est le visage de... Enfin, je pense que c'est le visage de la femme la plus taboue.
Oui.
Celle qu'on veut cacher, parce que c'est sa colère.
Oui.
C'est la colère des femmes. Médé Kali raconte la traversée de cette femme qui va passer. Enfin, il va y avoir plusieurs étapes qu'elle va franchir pour renaître du terrible crime qu'elle a commis.
Oui, l'infanticide qu'elle commet, oui.
L'infanticide, mais il y a une renaissance à la fin. Enfin,
tout à fait. Et bien là, Laurent Godet explique qu'il a mélangé ces deux femmes. Kali, qui est une déesse hindoue,
oui.
Qui est aussi une déesse qui est absolument qui est associée à la sexualité, à la violence, mais également à la maternité, au symbole de l'amour maternel. Oui. Et c'est vrai que j'ai lu un peu de texte où il disait, mais bon, je suis pas très au courant de ce qui se passe en Inde et de cette religion, mais je trouvais que c'était intéressant de mettre ces deux femmes en lumière, je dirais. Et il y a la Gorgone aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a tué ses enfants, elle devient un monstre quand même, parce que c'est quand même la pire des crimes. Enfin, c'est un crime horrible de tuer son enfant.
Alors, je vais prendre le relais.
C'est une question, c'est pas une affirmation.
Oui, je sais, j'entends bien. Alors, pour Kali, la sexualité, la violence maternelle, si véritablement on rentre dans dans ce que peut représenter Kali, c'est aussi trancher les égos. C'est trancher la... Et pour moi, je l'associe aussi à la figure de Saint-Georges. C'est vraiment l'épée qui tranche la tête et qui amène à sortir du calcul pour être dans un vrai rapport au service.
Un renouveau aussi, c'est un renouveau.
Et Médé Kali, c'est l'histoire d'une femme trompée, c'est l'histoire d'une femme bafouée. La Gorgone... Elle a ce regard qui tétanise les êtres. J'ai l'impression que quand on... la vie est faite ainsi. Quand on a engagé une parole et qu'on se dédie, on froisse une feuille. Et cette chose froissée, on ne peut plus du tout la réparer. Et parfois, on réussit à passer par-dessus. Il y a la résilience, il y a la capacité d'engranger le froissement de l'âme, et puis de continuer à avancer, c'est ce que fait la rescapée. Et parfois, c'est impossible. Il y a des personnes qui ne peuvent pas y survivre. Et pour manifester qu'ils ne peuvent pas y survivre, ils rentrent dans de la pulsion de mort, donc dans de la violence, dans de l'agression, dans le besoin que tout soit détruit autour d'eux. Le monde doit s'arrêter à leur douleur. Et je pense que cette pièce, c'est une pièce qui interroge aussi cet effroi qu'on peut avoir face aux personnes qui arrivent à ces stades de folie.
Des folies,
et en même temps, c'est...
Et de douleur aussi.
Et de douleur aussi. Et en même temps, l'art est là pour nous permettre de vivre de manière symbolique tous ces passages sans être altérés. Enfin, c'est la catharsis, c'est la purgation des passions. C'est un art millénaire. Hein. Depuis l'aube de l'humanité, le théâtre antique et le personnage de Médée est né pour interroger la société sur ce qui régit une relation.
Oui, la violence, voilà. C'est aussi de l'être qui qu'est-ce... existe et qu'il faut accepter. Ouais. Surtout. Ouais.
Qu'est-ce qu'on sème et qu'est-ce qu'on récolte. Juste, je raconte une toute petite anecdote.
Oui.
Justement, pour cette manière dont on préserve la vie. Une fois, je me suis retrouvée à garder des enfants dans une cour d'école. Et puis, il y avait un enfant qui était là. C'était une maternelle. Et il attrapait un enfant. Il le frappait au sol. C'était d'une extrême violence. Je suis venue, je les ai séparés. Et l'enfant qui était violent était dans un état où il ne pouvait plus respirer. Il était submergé de colère, d'émotion. Et j'ai attendu qu'il se calme et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Et en fait, quand il a réussi à pouvoir parler, il m'expliquait qu'on venait d'essayer de l'étrangler dans la cour et qu'il s'était défendu. Et là, je me suis dit, parfois, quand on arrive, c'est bien de prendre les infos et de pouvoir, de pouvoir comprendre. Et cette pièce, Médicali, c'est un personnage monstrueux en soi. Mais je me dis qu'il faut s'approcher des monstres pour comprendre le monde qu'on a créé.
Complètement. C'est vrai, sommes-nous des monstres? On peut se poser la question aussi. Alors, nous allons écouter Lucille, Arnaud, qui va nous dire un extrait de la pièce de Sang et de Lumière, et accompagné par la conteuse de son, Marie-Laurette Génie.
Je viens de terre où je suis étranger. De terre où je ne suis pas né, dont je ne parle pas la langue, et qui sont miennes pourtant, parce qu'aimées. Je suis né d'un regard posé sur la Méditerranée, cette mer déchirée qui fit toujours commerce de vases, d'huile, de vin, d'esclaves, de tout. J'ai ces lumières en moi, depuis ces premiers étés à l'âge de 2 ou 3 ans. Je ne peux pas imaginer qu'il n'en reste rien. Des photos sont là, mon père avec ma poussette sur le site de Carthage. Plus tard, dans le massif des morts, j'ai appris le sud à la gare de Fresnay. Ces marches dans les collines, les vasques qui se découvrent et dans lesquelles il fait bon sauter, le tapis de fougères que l'on se fait pour dormir, qui est comme une montagne et qui devient aussi plate qu'une pierre lorsqu'on s'y couche. Je me souviens du chêne-liège et du myrte, du mistral qui gifle les visages écarts de la mer. Du grand incendie de 1979, j'avais 7 ans et regardais les cendres tomber sur le village. Tout était bloqué, on ne pouvait plus ni entrer ni sortir, les routes étaient coupées et le village entier retenait son souffle. J'ai dans les yeux ce sud que je n'ai plus jamais cessé d'aimer, de contempler. Ce sud qui m'est étranger et m'enivre. Tout est là, depuis toujours, l'argent, la rivalité, les regards de couteau, la nonchalance du crime, tout est là. L'hospitalité et les gestes vieux de berger. Il y aura toujours en Grèce une plage humble où se baigner sans luxe, avec frugalité. L'Europe et la Méditerranée. Les deux saignent, hésitent et tremblent. Je viens d'un combat permanent, de sang et de lumière. Le monde entier regarde l'Europe avec envie. Elle seule ignore qu'elle est riche et s'enferme peureuse avec des hésitations de vieille égarée. La Méditerranée a visage de cimetière. Chaque jour, on meurt en tentant de la traverser, depuis des siècles. Chaque pays a connu ses réfugiés. Grecs, Turcs, Algériens, Siciliens, Pieds-Noirs. ceux qui fuyaient l'Andalousie d'Isabelle la catholique, ceux qui partaient en Israël, les Libanais. Je viens de cette foule pressée par l'histoire, mais du temple de Delphes aussi, de la grâce de ses gestes et du silence du cimetière marin de Sidi Bou Saïd. Je suis fils de blessures, de contractions, mais de la vigne et de l'olivier. Nous sommes vieux comme le monde, héritiers de villes rasées, de peuples en mouvement, du désir fou de bâtir pour l'éternité et d'offrir des temples, des statues à ceux qui nous suivront. Nous sommes les fils de l'incendie. Et notre devoir est de contenir les flammes. Chaque fois, le même combat renouvelé. Les contenir pour qu'elles rayonnent plutôt que de tout brûler.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1, l'émission Tant qu'il y aura des femmes. Je suis Lydia Ketty, je reçois des femmes debout. Je suis tellement fière et tellement contente d'être avec vous. Khadija, elle m'a dit, Marie, Laurette, Génie qui vient de nous faire un son. Lucie, Arnaud qui vient de nous émerveiller. Nathalie dit, alors je vais pas le tromper. Vie des lacs. Et Émilie Andru et qui va donc également nous parler un petit peu de la pièce Cendre sur les mains. La rescapée, en fait, l'un des personnages omniprésents, c'est la guerre.
Oui.
En fait, on comprend au bout d'un moment que c'est la guerre qui transforme ces gens, quelquefois en monstres. Et la reste. Alors, la question que j'ai envie de poser, je la pose comme ça un peu à toutes. Est-ce que la rescapée représente notre humanité, qui est malmenée par la facilité de la violence? Et est-ce que les fossoyeurs sont les serviteurs du mal absolu? Est-ce qu'on peut décrire ça comme ça?
Non, pas pour
non,
moi.
Voilà.
Non. Pour moi, les fossoyeurs sont les... Sont, en fait, notre humanité, elle peut être merveilleuse comme barbare, emporte en nous le meilleur et le pire. On a été lamentable. Ah, et ça, il faut bien le reconnaître, quoi. Et c'est seulement en reconnaissant qu'on a raté, qu'on est passé à côté, qu'on n'a pas fait le geste qui sauve, qu'on n'a pas tendu la main. C'est seulement en reconnaissant réellement qui on est, peut-être dans les parts les plus sombres, qu'on peut commencer à faire un vrai premier pas de rescapé. On est rescapé de notre barbarie. Mais en fait, je pense que vraiment, on est tous barbares.
Je pense qu'il faut l'être, je pense, pour renaître aussi quelque part.
Oui, en tout cas, pour porter un petit peu de lumière, je pense qu'il faut d'abord passer par cette reconnaissance-là.
Ouais, tout à fait. La rescapée. Les fossoyeurs s'interrogent sur leur culpabilité. Et la rescapée, en fait, leur refuse. Le rituel symbolique du passage vers l'au-delà.
Oui.
Elle refuse de leur pardonner, de les absoudre en fait pour ce qu'ils font.
C'est ça. C'est un acte. On se pose aussi la question de savoir si Khadija nous a d'ailleurs posé la question de cette histoire de non pardon. Comment nous on le ressentait personnellement. C'est aussi, je trouve, un acte de courage de savoir aussi à un moment donné ne pas pardonner du mal qui a été fait. Son but est vraiment de rendre hommage à ceux qui sont morts, les siens finalement. Ne pas donner pardon à ceux qui ont fait des actes horribles finalement, ou qui ont aidé du moins. C'est une question qu'on s'est posée, savoir si nous personnellement on arriverait, si on était en phase avec cette décision-là. Et je dirais que d'avoir traversé l'œuvre entière donne raison à cette décision-là.
Oui, tout à fait. Oui. Quelquefois, il ne faut pas pardonner.
Oui.
Ce n'est pas obligatoire.
C'est ça.
Parce qu'il paraît que ça fait du bien, mais on n'est pas sûr, en fait. Marie-Laurette Génie, la conteuse de son. Dans cette œuvre, il règne une atmosphère. D'ailleurs, on l'a entendu, ce que vous... le son que vous pouvez nous donner avec la lyre, parce que c'est une lyre en fait, hein, c'est ça?
Oui.
Que vous avez créé avec le bois flotté. Mais vous utilisez plusieurs instruments au cours de cette pièce Cendre sur la main. Vous avez plusieurs instruments, n'est-ce pas?
Oui, il y a plusieurs instruments. Et aussi, je voudrais dire que je ne suis pas seule à la musique. Il y a Lena Tocker aussi qui a créé et composé le chant. On tisse ensemble. Elle utilise aussi d'autres instruments. Et moi, j'utilise un violon de Mongolie,
oui,
qui lui aussi a une relation entre le monde visible et invisible dans sa tradition. Voilà, donc il y a ces instruments en fait qui sont qui peuvent être utilisés de manière dédiée à honorer que ce soit la nature ou le vivant, la mort aussi.
La mort aussi, bien sûr.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Vous avez aussi, vous accompagnez les Cobiliers avec en mêlant des chants.
Oui.
Alors, explique-moi ces chants, comme diphoniques, c'est ça?
Oui, c'est, c'est un chant qui se pratique beaucoup en Mongolie.
Mm-hmm.
Où on entend, y a un bourdon et puis on entend deux voix. Et là, j'utilise peut-être plus le chant harmonique, qui est un peu différent, qui est plus doux, sifflé, parce que le chant diphonique, il y a vraiment, ça vient dans la gorge. Enfin, il y a plusieurs chants diphoniques aussi, mais
ouais,
voilà, c'est différentes manières de chanter. Mais oui, je suis inspiré grandement par cette culture.
Oui, et puis on en parlera, mais c'est vrai que vous avez fait des voyages là-bas, vous avez récupéré des sons, etc. Vous faites aussi, vous êtes une grande voyageuse. les masques.
Oui.
Mon Dieu. Alors, ces masques extraordinaires. Le masque est un objet ancien, excessivement ancien en fait. Hein.
C'est
1500 avant Jésus-Christ, après.
Oui, c'est depuis que l'homme,
oui,
depuis
existe,
que
en
la
fait,
femme est femme, on a dédoublé le monde. On a...
Oui, oui, ouais, je pense, oui, oui, absolument. Alors vous avez fait une école, en fait. Vous étiez assistante d'un monsieur qui crée les masques. Enfin, vous avez été jusqu'au fond de cette envie de masque aussi. Vous avez...
Alors, le premier masque...
Christophe Paty, par exemple, vous avez été
Christophe
assistante.
Christophe Paty, tout à fait. J'étais assistante de Christophe, qui est maître de masque au Conservatoire National à Paris. Je l'ai assisté pendant 6 ans, donc j'ai vu toute la jeunesse flamboyante qui a fait naître des masques devant moi. J'ai été bouleversée. La première vision que j'ai d'un masque qui me renverse, c'est dans la salle Louis Jouvet du Conservatoire National, une jeune femme très grande, très, très fine, vraiment une armature dans le corps très ciselée. Et elle met ce qu'on appelle un masque hanté, donc c'est uniquement le front et le nez. Elle lève la tête et là je vois une marionnette humaine. Le bois du masque se confond avec le bois de la salle Louis Jouvet et j'ai l'impression que le monde se dédouble et toute la salle, c'est comme si elle décollait de 2 mètres au-dessus du sol et je me mets à rêver et j'ai une sensation qui est celle que j'ai pu peut-être avoir enfant les premières fois que j'ai vu des spectacles. Et je suis complètement désarmée, je suis renversée, je suis emportée et je n'en suis jamais revenue. Voilà. Je n'en suis jamais revenue.
Et Thierry François, qui est sculpteur et qui crée les masques avec vous, c'est ça le travail?
J'ai rencontré Thierry François dans le cadre d'une association qui s'appelle les Créateurs de Masques et qui réunit tous les créateurs de masques qui existent en France. Et lors d'un travail autour de Médée qu'on avait fait à l'époque avec Nathalie Vidaillac, avec Lucille Arnaud, on a eu une rencontre forte avec Thierry, avec un masque qu'il avait réalisé pour une Médée. Ensuite, on a donné un stage à Vdas au Théâtre Manu qui est un tête de marionnette. Et suite à ce stage, je lui ai proposé qu'il crée des masques de recherche dans le cadre du cours Florent avec les élèves. Et puis, il y a une investigation qui a commencé. Et d'ailleurs, Cendre sur les mains a commencé de cette manière en mois de décembre. Enfin, non, c'était pas en décembre, c'était en octobre dernier.
Je suis arrivée avec ces deux... Il y avait deux masques à l'époque, deux masques et le masque de la rescapée. Et on a fait un travail de 3 mois avec 40 élèves autour de ces 3 masques. Ça a été un moment très particulier parce que je suis arrivée avec cendre sur les mains et avec les événements du 7 octobre venaient d'avoir lieu. Et de parler de ces deux fossoyeurs, de ce charnier, de cette rescapée, dans ce climat d'une extrême violence où tout le monde était renversé par ce qui était en train de monter. Je me disais, mais comment je vais faire avec mes 40 élèves en face? Comment on va traverser ça? Et en fait, c'est eux qui m'ont emporté, parce que je suis arrivée, j'ai parlé du texte, ils l'ont lu très rapidement, ils sont arrivés comme un cœur antique, et j'ai été emportée par leur énergie. Je pense que j'ai un peu couru derrière eux parfois, mais c'est beau d'avoir cette énergie de vie qui vient. Et à la fin de ce projet, on a joué à 40, donc il y avait 30 fossoyeurs. Il y avait 30 fossoyeurs, donc c'était impressionnant. À la fin, il y a eu la rencontre avec Émilie, avec toutes les personnes que j'ai nommées précédemment. Et puis est née cette aventure qui nous amène à la croisée des chemins aujourd'hui.
Mais en réalité, ça fait déjà 12 ans que vous jouez masqué Mama Khan, en fait. Hein.
Oui, alors là, c'est une folie absolue. 12 ans avec le même masque. C'est au Conservatoire National aussi que cette idée en partie a germé. J'ai eu la possibilité, la chance de voir Ferruccio Soleri, qui est un comédien qui a beaucoup travaillé avec Giorgio Strehler, qui est issu de la Commedia dell'Arte, qui portait le masque d'Arlequin. Et il nous a fait une démonstration au Conservatoire alors qu'il avait un peu plus de 80 ans. Ça a été bouleversant de voir ce monsieur âgé mettre le masque d'Arlequin et avoir 18 ans et donner toute cette multiplicité du vivant manifeste à travers son corps. Et je me suis dit, là, il y a un Graal, il y a une pépite à vivre. Et souvent, les acteurs, on est engagés et puis on se retrouve seul. J'avais envie aussi d'avoir un fil que je puisse tenir tout au long de ma vie. Et voilà, il y a ce masque avec lequel je joue. Et je joue actuellement les samedis et dimanches aussi à la Petite Croisée à 15h.
Donc je vous conseille évidemment d'aller voir sur internet, vous avez toutes les informations de toutes ces femmes extraordinaires. Nous allons écouter maintenant Émilie Andru qui va nous dire un extrait du rôle, de son rôle de la rescapée dans Cendre sur les mains, toujours accompagnée par notre conteuse de son. Et Émilie, on vous écoute.
J'ai marché à nouveau, sans savoir où aller. Abandonnant cet endroit où la guerre m'avait jeté. Je me demandais de quelle fatigue elle allait m'éreinter cette fois. Je me demandais si elle finirait un jour par me laisser en paix. J'ai traversé une longue nuit, sans jamais m'arrêter, ni manger. Une longue nuit de plusieurs semaines, je crois. J'ai pensé que c'était son ombre à elle qui pesait sur moi. Je ne levais pas la tête, je marchais pas à pas. J'ai longé des routes, traversé des terres que je ne connaissais pas. J'ai fait saigner mes pieds. J'ai erré longtemps jusqu'à atteindre un jour le haut d'une colline. Je me suis arrêtée. À mes pieds, sur des kilomètres à perte de vue, se tenait un campement. Un amas immense de tentes et d'abris. Une ville entière d'enfants pieds nus et de réfugiés. Je suis restée là à les contempler. J'ai embrassé du regard cette foule qui se tenait serrée, puis je suis descendue lentement au milieu des miens. J'ai trouvé une ville dans laquelle me fondre. J'ai trouvé ceux qui sont comme moi. Je vais dire ce que je sais par cœur, ce que j'ai au fond des mains. Je vais dire la longue liste de ceux que j'ai touchés. Les hommes et les femmes viendront m'écouter. Chacun s'approchera pour savoir si, parmi ceux que je dis, il est un proche ou un ami d'autrefois. Oui, je serai parmi eux celle dont les mains ont gardé la trace des corps avalés par la guerre. Je vais rester là. Je ne bougerai plus. Je suis épuisée de fumée. Je ne sais plus rien de moi. Un jour, peut-être, quelqu'un dans ce campement sans fin me reconnaîtra. Il doit bien rester cela. Quelqu'un qui m'arrêtera et me dira qui je suis et d'où je viens. Il doit bien rester quelqu'un. Je serai patiente. J'attendrai qu'il vienne à moi. Il doit bien y avoir cela, ici-bas. Quelqu'un pour se souvenir de moi et me raconter la vie d'autrefois.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 et vous écoutez l'émission « Tant qu'il y aura des femmes ». Merveille. Bravo. Marie-Laurette Génie, justement, puisque vous êtes là et que vous nous engagez dans un monde incroyable. Ça fait très longtemps que vous collaborez avec ces femmes.
Alors...
Avec toutes ces merveilles, toutes ces comédiennes extraordinaires.
C'est très récent.
Ah.
C'est une aventure merveilleuse. Fallait que ça se passe.
Fallait que ça se passe.
Je pense que
vous avez des liens. C'était tellement évident en plus. C'est incroyable comme c'est évident. Le guérisson voyageur, qu'est-ce que c'est?
Eh ben, c'est cet instrument, justement, que j'ai réalisé à partir de cette branche de bois flotté, dans toute une histoire. Avec cet instrument, je suis partie en Mongolie par le train et j'avais cette merveille, je suis plasticienne et je voulais que mon œuvre rencontre le monde. Et donc je suis partie en train avec le guérisson et jusqu'en Mongolie. Et ensuite, je suis revenue. Et puis après, j'ai traversé l'Atlantique en cargo et en train. Enfin voilà, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de paysages. Et c'est vraiment un récit d'une aventure artistique, humaine et initiatique. Parce que je suis partie à la rencontre de l'autre, mais je me suis rencontrée aussi... à travers la nature, les paysages et les êtres.
Et vous serez donc au théâtre, c'est cela?
Oui, alors c'est...
Les dates?
Du 16 novembre au 1er décembre.
Le jour de mon anniversaire.
De quoi, le 16 novembre ou le 1er décembre?
Le 1er décembre.
D'accord, je note.
Ce sera le dernier soir.
Ah,
et donc ce sera le samedi à 21h et le dimanche à 19h. À la petite croisée des chemins, la salle qui est dans le 15e, où je vais surtout raconter, faire le récit de en musique et en images de ce voyage sur la partie Mongolie. Donc il y aura un film de 26 minutes où on pourra partir en voyage avec moi et il y aura la musique.
Oh, ça va être un merveilleux voyage, j'en suis persuadée.
Voilà.
Nathalie Videlac, alors Médée Cady, à partir de
alors.
les dates, alors de, on va parler un petit peu de la programmation parce qu'il y a beaucoup 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 de choses,
oui,
que vous, n'est-ce pas?
C'est du 13 mars au 2 mai.
Très bien. Et vous êtes à quel théâtre?
C'est le théâtre de la Croisée des Chemins, près de Belleville.
D'accord.
Métro Télégraphe, exactement.
Et est-ce que vous avez d'autres projets après cette pièce? Est-ce que vous avez d'autres projets peut-être avec Adija ou avec d'autres personnes? Parce que...
Oui.
Dites-moi.
Un autre projet?
Oui.
Là, on en a parlé vaguement, mais je ne sais pas si je peux.
Une exclusive.
Oui, attention, exclusivité, absolument. Écoutez bien.
Bon, bah, je ne sais pas. Enfin, tu as évoqué une pièce de Garcia Lorca, mais après, je ne sais pas si c'est.
Dis-nous, pour le moment, on ne parle pas de la suite.
Ah, d'accord.
Une actualité, là,
ah, moi, j'ai des actualités, mais pas avec Radija.
C'est surtout
en
comédienne
qui
intervient.
Ah, moi, en tant que comédienne,
absolument,
oui.
Absolument, en tant que comédienne, absolument.
Et elles ont, ça, d'ailleurs, ce lien, qui est la femme.
Oui.
Je travaille sur Blocage, qui est une pièce qui traite de la question de l'avortement.
Oui.
Donc, qui est écrite par Marion Moneuse. Je travaille également sur une pièce qui s'appelle Karine ou la jeune fille folle de son âme,
oui,
qui parle de l'amour et de ses paradoxes et voilà, sa
donc
folie.
Ça, ce sera à quel théâtre, ça, alors?
Alors là, on n'en est pas là.
Vous n'êtes pas là encore. C'est non. Un projet qui sera à la
voilà,
fin d'ici l'année prochaine.
C'est en résidence.
D'accord, voilà. Super.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Donc, Émilie et Andru, vous êtes la rescapée, très bien. Est-ce que vous avez d'autres projets après cette pièce?
Oui, je travaille en ce moment sur une adaptation du roman de Edgar Elzenras qui s'appelle Fuck America.
Mm-hmm.
Voilà, c'est en création depuis un an. Voilà, avec une équipe pareil d'amis qui viennent du cours Florent.
Mmh.
C'est une folle aventure aussi, ça, c'est une œuvre presque autobiographique de l'auteur, qui est un ancien juif ghettoisé qui est allé en Amérique, donc il nous raconte un peu son quotidien fou.
Mmh.
Et puis sa lutte pour écrire, pour se souvenir. Je suis également en mise en scène sur un texte de Rambert, cette fois-ci Sœur, donc avec deux femmes. Comment deux sœurs ont un huis clos d'une violence extrême et d'amour aussi extrême qui viennent voilà, se faire les derniers reproches 20 ans après. Et puis peut-être qu'on pourrait avoir d'autres projets avec Radija, d'autres projets masqués,
sûr,
fous.
Radija, n'arrête pas de travailler.
Pas
donc.
Avec grand plaisir en tout cas.
J'en suis persuadée.
On a d'autres textes de Godet à traverser.
Oui. Lucille, pardon.
Du coup, on va jouer avec Vedat du 7 novembre au 27 décembre, les jeudis et vendredis à 21h, mm-hmm, à la Grande Croisée des Chemins Belleville.
Mm-hmm.
D'ailleurs, c'est rigolo parce que la Croisée des Chemins, c'est un lieu de rencontre grâce à Mahmoud Khtari qui est celui qui nous réunit toutes et tous dans cette Croisée des Chemins. Nos chemins se sont croisés
avec
Radija, mais aussi avec Betty Pélissou, que tu connais,
que
Lydia,
connais, que...
et que j'ai rencontré grâce à la Croisée des Chemins, ouais. Formidable metteuse en scène. Et du coup, je vais jouer Antigone au studio Héberto les samedis en janvier et en février sous sa mise en scène. Voilà, et sinon, je viens d'être prise dans Platonov pour le rôle de Sacha, mis en scène par Daria Maltseva.
Mon Dieu,
voilà.
Et il y a aussi de la vidéo, des podcasts.
Oui,
non, c'est pas des podcasts, c'est de la vidéo.
Il y a des petites capsules
choses.
Humoristiques, mais sinon, je suis aussi comédienne à l'image et je suis aussi réalisatrice. Et voilà, il y a des films qui vont se faire,
il y a des choses
qui vont
se faire. Très chouette, très chouette. De toute façon... vous devez aller sur Internet, vous mettez les noms de toutes ces jeunes femmes et vous allez voir ce qui est possible, les dates, les théâtres, etc. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que vous n'arrêtez pas de travailler. c'est incroyable votre programmation. Entre la fin de l'année, on va jusqu'en 2025 en réalité,
mm-hmm,
n'est-ce
mm-hmm,
pas?
Oui.
Alors dites-moi tout ce que vous allez faire parce que j'ai tout noté, mais c'est incroyable. J'ai vu qu'il y a le rapport... pour une académie de France Kafka, c'est ça?
Oui, oui, de Kafka. C'est un spectacle dans lequel je mets en scène justement le directeur artistique du théâtre La Croisée des Chemins. Et c'est un spectacle qu'on a déjà joué, c'est une reprise. Alors moi, j'aime prendre mon temps, j'aime le temps. Je travaille beaucoup, mais je travaille et j'aime savourer. Alors c'est particulier parce qu'on... Voilà, généralement on monte un spectacle, on joue un certain nombre de dates, ça fonctionne pas, on s'arrête. Non, je suis un bison qui laboure le sol sur des années. Il y a 12 ans pour Mamacane, Laurent Godet ça a commencé en 2017, j'ai monté Sans négrier à l'époque, ensuite on a travaillé sur Salina, Les Trois Exils. Il y a eu De sang et de lumière, Médécali. Maintenant, on est sur Cendre sur les mains. Et j'en parlais au début, Bienvenue sur mes terres. C'est un immense territoire. Et la question du voyage, j'ai l'impression que je suis toujours en voyage. Je voyage.
Et nous, on vous suit avec plaisir. En
fait. Et c'est une joie de pouvoir voyager. Du coup, ce grand voyage, là, cette année, commence par Cendre sur les mains. jusqu'au 1er novembre. Ensuite, on a 200 et de lumière du 7 novembre au 27 décembre. Mama Khan, j'ai déjà commencé à le jouer. Je terminerai
depuis le 5 octobre, vous avez commencé le 5 octobre.
Depuis le 5 octobre, je terminerai les représentations le 22 décembre. Je joue les samedis et dimanches à 15h.
À la petite croisée des chemins.
À la petite croisée des chemins, qui est près du métro Pasteur ou du métro Volontaire. Marie-Laurette Génie, alors je participe pas réellement à son spectacle, je fais un peu le regard extérieur, mais quelles sont les dates te concernant ?
C'est du 16 novembre au 1er décembre.
Donc du 16 novembre au 1er décembre, et c'est tous les...
Le samedi à 21h et le dimanche à 19h.
Samedi à 21h, dimanche à 19h. Voilà, ensuite je vais bondir à nouveau sur un autre auteur qui est vraiment la base même de tout ce grand mouvement, c'est Antonin Artaud.
Antonin Artaud.
Oui, et son texte, Le théâtre et son double. Je parle souvent de ce dédoublement de la réalité. Alors, lui a fait des voyages, il est parti chez les Tarahumaras, chez une tribu native du Mexique, pour, à l'époque, se désintoxiquer de l'opium qu'il pratiquait allègrement avec les surréalistes. Et quand il est revenu, il était très différent. Il avait vécu un voyage initiatique là-bas qui l'a ramené à des archaïsmes qui n'étaient pas recevables quand il est rentré. Et hôpital psychiatrique. Et il est ressorti comme ceux qui revenaient des camps à la fin de ce périple. Mais c'est une figure que je trouve fondamentale pour le théâtre. Il parle de l'organicité, il parle de la poésie, il parle de l'instant, il parle du fait de rester dans le flot de la vie, d'être vivant. Je pense que vraiment toute son écriture, ça a été une lutte pour rester vivant. Et du coup, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. C'est un rescapé.
Ça, oui.
C'est une rescapée, je ne sais pas. Oui. C'est un, en tout cas.
J'ai lu que Laurent Godet, en fait, il avait écrit une partie de la pièce Cendres sur les mains. Il a laissé pendant une année. Et en réalité, il a trouvé un article dans Libération qui expliquait qu'une femme kosovare avait été rescapée d'un massacre dans un village. Et il a été tellement choqué par ça. Et il dit que, en fait, dans la pièce Cendres sur les mains, il a mis des extraits de cet article de Libération. Ça veut dire qu'en fait, Cendres sur les mains, c'est une histoire vraie, quelque part.
Mais tout est vrai. C'est vrai, tous les contes, tous les chants, toutes les danses sont des dédoublements de la réalité. Pour moi, après le voyage que j'ai fait aux États-Unis, parce que Mama Khan est née d'un voyage dans le Dakota
dans
du
le Dakota.
Sud, auprès des Sioux Lakota, de manière évidente, le moindre chant est là pour se relier à la terre, aux étoiles, enfin au vivant. Le moindre conte est là pour amener une guérison, une réparation qui est transmise ensuite par le biais du conte de génération en génération. Et la moindre danse est la possibilité de porter en soi dans le corps des formes symboliques qui relient au vivant. Donc et les chants aussi sont là pour permettre à l'indicible de pouvoir se manifester. Alors c'est l'art pour moi c'est le lien avec la vie, et Laurent Godet le fait très bien dans toutes ses œuvres. Il y a un lien évident entre le monde et la poésie et le fil qui relie.
La parole courte, si vous voulez rajouter quelque chose, mesdames, si vous avez envie de nous dire. Mais nous avons 6 minutes encore à ensemble. Donc, déjà, il faut que les auditeurs aillent sur les sites pour avoir des informations, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. On arrive en 2025, en réalité, en mars 2025.
Oui, rapport pour une académie qui se jouera en même temps que le Artaud, et Médécali qui sera représenté du 13 mars au 2 mai à la Grande Croisée des Chemins au métro Belleville.
Jeudi et vendredi à 19h.
Oui, jeudi et vendredi à 19h.
Très bien. Et si jamais vous voulez rencontrer Laurent Godet, surtout, vous allez y aller vendredi au théâtre.
Oh là là, ça va être terrible. Toutes les amoureuses.
Toutes les amoureuses seront là. Absolument.
En même temps, c'est beau. Hein.
En même temps, c'est beau.
Oui, c'est beau.
Ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'on vit en ce moment... Les bûchers sont là, en fait, c'est ça. Les corps brûlent. Mmh. Les corps brûlent. Mmh. Et on a l'impression qu'on ne peut rien faire, que on ne reçoit pas la fumée, les gens ne savent pas, en fait. Ils voient les images des corps brûlés, mais il n'y a pas de réaction. Donc la question que je me pose, c'est ça. Est-ce qu'on va continuer à regarder les corps brûlés? Je vous pose cette question.
Alors, c'est une question puissante, parce que vous parlez de votre impuissance, et en miroir, je vais vous parler de la mienne. Mais l'acte que je fais chaque matin, vous me disiez, mais vous n'arrêtez pas de travailler. Je travaille peut-être comme quelqu'un qui voit un monde rêvé s'effondrer devant moi, qui tente par le biais du chemin qu'elle a accompli, c'est-à-dire que moi je me suis destinée à la scène, au théâtre, à la mise en scène, par le biais des outils qui sont les miens, qui tente de penser le monde, de le penser dans le sens réparé, de faire geste, en tout cas de faire signe. Et c'est très complexe de faire signe aussi aujourd'hui.
Mais très nécessaire.
Oui, mais oui, nécessaire. Bien. Il y a un terme que disent les Lakota, c'est Hokahe. Hokahe, ça dit en gros, c'est un très beau jour pour mourir aujourd'hui, parce que je suis exactement qui je suis. Ouais, je pense que c'est ce qu'on a à faire en tant qu'artiste, c'est laisser la trace de ce que l'on est. Et la thématique de la mort, elle est très présente dans l'œuvre. Ce qu'on a vécu avec le Covid nous a rapprochés tous d'une expérience proche de la mort.
On a, et
chacun s'est positionné. Je pense que le monde qu'on a aujourd'hui est le fruit aussi de ce choc incroyable, inimaginable. Le plus grand scénariste aurait écrit...
c'était une fiction, absolument.
On avait l'impression de vivre une fiction. Le monde d'aujourd'hui, je crois qu'il est à l'image de la manière qu'on a de traverser nos peurs.
En même temps, ça nous révèle aussi de savoir qui on est dans ce monde-là. Le chant hommage aux femmes. Oui.
Remember Me.
Oui. C'est vous qui avez choisi ce titre?
Oui. Le temps file.
Oui, le temps file. Mais si vous voulez nous en parler, du temps file.
Je peux peut-être le dire en même temps que le chant. Oui. Ce serait très beau.
Alors, écoutez, on va mettre le chant. Et puis, on va tout mélanger. Parce qu'en fait, c'est que du son. Donc,
c'est que de la poésie,
absolument.
Que du lien.
Eh bien, on y va. On va déborder un peu même. Merci infiniment.
Merci beaucoup de votre accueil. Merci à toutes. Le temps file. Cette sensation étrange d'un compte à rebours et de ne rien céder au temps qui passe. Tout saisir. Être au rendez-vous. Ne pas perdre la joie de chaque instant partagé, de chaque entrée plus profonde dans la matière, même dont sont faits les masques et le jeu masqué. Il faut 10 ans pour faire un artiste de théâtre. Il faut une vie pour un artiste masqué. Il faut jouer pour savoir ce que jouer veut dire. Le festin est un territoire immense. Pour les praticiens, il y a 2 écoles sur le lien entre le texte et les masques. Laurent Godet et son verbe épique offrent des perspectives de traversée organique, pleines de suggestions et hallucinatoires. Elle offre des territoires sans fin, un rêve éveillé, puissant. Je trouve cette rencontre évidente, belle, entre ces textes et le masque. Le rêve se déploie de représentation en représentation, et c'est touchant de voir non un mécanisme bien huilé se reproduire dans le jeu des comédiens et des comédiennes, mais une plongée au fond de leur être. De représentation en représentation, elle se déploie comme une arborescence qui fracture la roche pour s'offrir à la lumière du soleil. Cette percée est un désir qui avance. Les liens se tissent et le vivant est là. Et je les regarde chaque soir comme un jardinier ébloui par les floraisons de révélation et les fruits de conscience offerts au public. Et je remercie de tout mon cœur cette formidable équipe de porter avec leur corps, leur esprit, leur voix, ce texte puissant qui résonne si fort. Je remercie tous les artistes de Cendres sur les mains. Je remercie tous les artistes de Sang et de Lumière et tous les artistes de Médécali. Et je remercie Laurent Godet, je te remercie Lydia. Merci.
À vous, c'est une vraie merveille. Merci aux auditeurs. Merci à Armand Dury qui nous a accompagnés, le réalisateur technicien.
Je peux dire juste une chose. Remember Me, le chant qu'on entend, c'est un chant destiné aux femmes qui rend hommage aux femmes natives qui sont enlevées dans les tribus et tuées. Chaque année, il y a plus de 5000 femmes qui disparaissent et il y a à peine 100 dossiers qui sont réellement instruits. Et on ne sait pas, 4 femmes sur 5 ne sont jamais retrouvées.
Et surtout, n'oubliez pas, à chaque fois qu'une femme se lève, c'est pour notre humanité.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.